Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio de la Raffinerie, mardi 18 janvier, il est 11h48. Youhou. C'est du direct, on est situé dans le quartier de Savannah à Saint-Paul. Alors on est en extérieur, il vient d'avoir un gros déluge, on n'a même pas pu enregistrer quand on voulait. Et il y a plein de guêpes qui nous entourent, voilà, je vous plante un petit peu le décor. Ici à la Raffinerie, on reprend gentiment du service, les chantiers participatifs, ils ont recommencé mercredi dernier. Nous, à la radio, ben, on se retrouve pour le deuxième podcast. Le premier, c'était il y a un mois déjà. Et entre-temps, on a construit une super table pour faire un plateau radio avec des palettes. On va pouvoir se mettre bien, accueillir plein d'invités autour de cette jolie table. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. On reçoit notre toute première invitée. C'est Catherine, avec qui on parlera micro-forêt. Bonjour.
Bonjour, France.
Bonjour, Kat.
Bonjour, Régis.
Bonjour, Kat.
Bonjour Guillaume.
Alors ces jolies voix que vous entendez, c'est notre fine équipe. Malheureusement, ben, il nous manque notre super technicien Jonas. Il a été bloqué dans le sud à cause de la pluie, donc une grosse pensée pour toi Jonas. Mais on a quand même une petite fine équipe qui est regroupée. Donc à ma gauche, Régis. Salut Régis.
Salut.
Salut.
Il n'y a pas le son quand ça va le
gros. Vas-y, vas-y.
Salut. Bonjour l'océan Indien.
Ah là là, Régis, aujourd'hui tu vas être notre investigateur, tu nous as préparé une chronique en lien avec notre sujet du jour, la micro-forêt. Et puis en ce moment à la Raffinerie, on est en train de monter une coopérative et c'est ce qu'on va voir avec Guillaume. Bonjour Guillaume.
Oui, et ben moi je vais voir carrément comment être heureux, voilà, aujourd'hui c'est la question du jour.
Et il en faut peu, on va voir ça avec toi.
Ça c'est pour la blague.
Voilà, tu vas nous parler de la SKIC qui est en train de se monter ici même à la Raffinerie.
Oui.
Et on a un super fond sonore, c'est grâce à Antoine, ici présent, vous entendez, c'est en lien avec le thème de la journée.
Qui est assis juste à côté de nous.
Ouais.
Bravo Antoine.
Salut Antoine. Salut. Et tout à l'heure tu nous présenteras, tu vas nous passer un morceau à toi et tu nous le présenteras donc en direct. Pour nos chères auditrices et auditeurs. Et je propose qu'on enchaîne direct avec le sujet, avec notre chère et douce invitée, Catherine, alias Kat, alias Cindy. C'est ta première fois en plus derrière des micros, tu nous disais tout à l'heure.
Ouais, j'ai jamais fait de radio.
C'est génial. Et ben, c'est un plaisir de te recevoir avec nous aujourd'hui. Et toi, dans la Raffinerie, tu es sur différents pôles, tu es administratrice, mais pas que. Tu fais partie aussi de l'équipe Micro-Forêt. Alors, est-ce qu'en une phrase très simple, juste en intro, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une micro-forêt, tu peux me faire une phrase très courte pour nous dire le concept et après, on rentre dans le pourquoi du comment.
Une micro-forêt, s'il faut être très très bref, c'est une petite forêt qui fait minimum 200 mètres carrés sur sa largeur, qui rassemble une grande diversité d'espèces endémiques, toutes membres du même écosystème, et qui est plantée de manière très très serrée, voilà, de manière très courte.
Ok. Alors en fait, il y a différentes étapes à suivre, des règles à respecter, et vous, vous êtes inspiré de la méthode Miyawaki.
Exactement.
C'est un botaniste japonais.
Ouais. C'est ça. Donc Miyawaki, c'est un botaniste qui a imaginé sa méthode au Japon il y a plus de 40 ans. Et il l'a ensuite expérimenté dans l'Asie, en Asie du Sud-Est avec un protocole qui est très précis, qui précise comment choisir les espèces, comment préparer le sol, comment planter, comment entretenir la forêt pour avoir une réussite et une forêt qui soit à peu près autonome en moins de 20 ans, ce qui est pas le rythme naturel d'une forêt.
Et alors vous, la première étape ici à la Raffinerie, ça a d'abord été de rendre le sol viable, c'est ça? Parce
oui.
Qu'il était tout pollué.
Oui, oui, hein, effectivement, le défi à la Raffinerie, c'est quand on a eu cette idée de planter une forêt, il a fallu s'intéresser au sol. On est sur une friche industrielle, donc le sol est très abîmé. Donc on s'est dit, on va commencer par reconstituer un sol délimitant l'espace, en décaissant la parcelle, en dépierrant à la main grâce à nos chers bénévoles qui sont là tous les mercredis.
Et une grosse pensée pour eux.
Ouais, une grosse pensée. C'était des chantiers qui étaient vraiment pas évidents. On a tout fait à la main. Puis après, on a amené des matières organiques. On a créé un sol sur le principe de la lasagne. Donc ça, c'est une alternance de matière azotée et de matière carbonée. Et on recouvre maintenant de broyat assez régulièrement pour pouvoir créer un sol qui soit riche et accueillant pour les arbres. Donc ça, c'était la première étape, effectivement.
Et en parallèle, vous avez commencé à planter plein d'arbres dans des pots.
Alors, on n'a pas planté des arbres dans des pots, on a préparé des pots d'arbres. Enfin, disons qu'on a eu plusieurs manières de préparer le cortège. Effectivement, de semer des graines pour faire avoir des petits plants. Et puis aussi, on a travaillé en partenariat avec un pépiniériste qui est sur la même zone que nous. Il nous a fourni des toutes petites plantules qui étaient dans des toutes petites terrines. Et puis, on les a rempotées dans des pots de 3 litres. On les a mis en croissance dans notre super pépinière qui est très, très belle. Et j'invite tous les auditeurs à venir visiter. Elle est vraiment magique. Quand vous êtes au milieu de cette pépinière, vous sentez la vie. Il y a les arbres qui frémissent. Ils sont tellement heureux, ils sont tellement bien. Donc, effectivement, on a fait ça en parallèle.
Et combien, alors, on peut compter pour l'instant d'espèces différentes ici, là
Oh là là, on a un super cortège. Hein. Là, on a 38 espèces sûres. On est en train d'élargir un peu le cortège. On va arriver facilement à la quarantaine d'espèces différentes. Donc, d'espèces qui sont endémiques indigènes de La Réunion. Et c'est un très beau cortège qui est caractéristique d'un écosystème qui s'appelle la forêt semi-xérophile des mi-pentes de l'Ouest. Oui, c'est un mot un peu compliqué.
Attends, vas-y, répète.
Alors, on dit plus simplement la forêt semi-sèche. En fait, c'est une définition botaniste qui dit que c'est une forêt qui peut tenir 8 mois sans une goutte d'eau et qui existait à La Réunion sur les mi-pentes de l'Ouest. Alors, c'est le Grand Ouest, ça va des hauteurs de la Grande Chaloupe, hauteurs de Saint-Denis, jusqu'à les pentes du cirque de Cilaos, Étang Salé. Donc, on est vraiment resté sur cet écosystème qui a été étudié pendant de nombreuses années par... les experts, le parc national, le conservatoire botanique, le conservatoire du littoral. Donc c'est un écosystème qui est maintenant bien connu. On connaît bien toutes les espèces et on commence à trouver les plants de cet écosystème assez facilement, relativement facilement sur l'île.
Et alors du coup, il faut l'entretenir, cette micro-forêt. Au bout de combien de temps elle devient autonome? Tu disais tout à l'heure, c'était une vingtaine d'années
C'est ça, on estime, alors d'après le protocole Miyawaki, on estime que dans 20 ans, elle sera autonome. Il faut savoir que ce protocole, il est expérimenté en Europe que depuis quelques années. Donc on a assez peu de retours forcément dans le temps en Europe. Et ici, on n'est pas en Europe, on est à La Réunion. Donc on n'a pas encore de retour sur ça. Donc on estime effectivement que dans 20 ans, elle sera autonome. Il va falloir pour ça lui donner un petit coup de main, donc préparation du sol... plantation, un entretien pendant minimum 3 ans. Et puis après, effectivement, on va voir en fait. Nous, notre idée, c'est vraiment d'avoir un retour d'expérience sur ce protocole ici à La Réunion pour pouvoir le démultiplier et les semer un petit peu partout sur l'île.
Donc peut-être que dans 3 ans, ça y est, vous n'avez plus grand-chose à faire.
Peut-être, mais on verra.
Oui, c'est de l'expérimentation.
Oui, complètement. Et de toute façon, il faut vraiment se dire que quand on plante une forêt, on ne la plante pas forcément pour nous. Vous savez quel est le... meilleur moment pour planter une forêt?
Non. Dis-nous tout.
Régis, c'est quand le meilleur moment pour planter une forêt?
C'est quand il arrête de pleuvoir.
Guillaume, le meilleur moment pour planter un arbre?
C'est quand il n'y a plus d'arbres.
Et ben, en fait, on dit hier, ben, c'est trop tard. Demain, c'est trop tard. Donc, le meilleur moment, c'est aujourd'hui.
Ah.
Aujourd'hui, on ne la plante pas forcément pour nous.
Donc, right now.
Dans 3 ans, on ne sait pas ce que ça sera. Dans 20 ans, on ne sait pas. Mais il faut vraiment pas se poser la question dans ces termes-là. Il faut vraiment se dire, quand je plante un arbre et une forêt, ben, je la plante pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants.
Tout à fait.
C'est cette idée-là.
Et on parle souvent de résilience et de forêt résiliente. Il me semble que toi, c'est un terme que... Tu l'apprécies tout particulièrement. Ouais. Explique-nous.
C'est un mot complexe. La résilience, en fait, on pourrait dire, c'est la capacité à réagir aux obstacles, aux difficultés, aux épreuves. Donc, c'est cette capacité à se remettre sur pied, à se remettre dans les rails. Donc, moi, je trouve ça super intéressant de venir l'utiliser dans le milieu social et humain. Mais c'est vrai que ça part de l'observation du végétal et des écosystèmes. Donc, on estimera que cette forêt sera résiliente, c'est-à-dire qu'elle sera capable de se débrouiller elle-même suite aux cyclones, aux intempéries, aux ravageurs on dit au moins 20 ans, mais ça sera toujours un apprentissage. On n'est pas sur les mêmes échelles de temps que sur l'humain, mais c'est un peu cette idée-là.
Et en fait, ici, à la raffinerie, on est à côté d'un gros espace vert, donc c'est la réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dommage de se dire qu'on vient faire une micro-forêt à côté d'un endroit où il y a déjà beaucoup de verre, puisque un des buts premiers, c'est de baisser la température de la ville? ou non, ce sera jamais dommage et partout où il y aura du verre en plus, c'est ça de gagner.
Ah, ça sera jamais dommage. Il faut chacun faire jamais sa dommage. Part. Non, non, non. Et puis vraiment, y a une question que tu m'as pas posée et j'avais même envie de commencer par ça. C'est pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut faire une microforêt à la raffinerie? Et ça permet de répondre un peu à ce que tu dis. Donc, il y a des raisons qui sont écologiques, qui paraissent évidentes. Ah ben, il faut planter des arbres. Et il y a aussi un gros volet pédagogique. Et en fait, quand tu considères que la raffinerie, c'est un laboratoire d'expérimentation et d'apprentissage, on a envie que ça soit aussi le cas pour une forêt, de venir dire aux gens, ben, en fait, tout le monde peut planter un arbre. Alors, tout le monde peut planter plusieurs arbres. Comment on fait ? C'est pas parce qu'on en plante déjà à côté qu'on va pas en planter chez nous, c'est facile, quelles sont ces espèces? Et si chacun fait ça dans son bout de cour, dans son terrain, sur les ronds-points, ben, y aura plein d'espaces végétalisés qui seront proches les uns des autres et ils pourront entrer en connexion, ils pourront vraiment permettre un déplacement de la faune, de la flore, des graines entre eux. Donc non, c'est jamais dommage. Et puis, tout arbre planté, c'est toujours un petit peu moins de place pour des parkings. Qu'est-ce que t'en penses, France?
Tout à fait. tu es une poétesse au fond de l'âme, toi. Hein.
Très, très poète. En fait, l'observation et l'étude de la forêt et du monde végétal, ça invite à une grande humilité. Et vraiment accompagner des enfants et des adultes à se reconnecter aux arbres, à mettre les mains dans la terre et à se dire, là, je plante un arbre, et ben, ce sera peut-être pour mes petits-enfants. Oh, ben ouais, ça reconnecte à plus grand que soi, à plus loin que soi. Et j'adore cette idée d'avoir un support pratique dans lequel on peut mettre les mains pour nous reconnecter à notre part spirituelle.
Tout à fait. Alors, plus concrètement, du coup, il y a une micro-forêt qui a vu le jour à Saint-Pierre le mois dernier. Il y en a une aussi à Saint-Denis, me semble-t-il, disait. À Saint-Pierre, c'était dans le cadre de 1 million d'arbres pour La Réunion.
Oui.
Côté financement, du coup, ici, est-ce que c'était dans le même cadre?
Non. Alors, le projet 1 million d'arbres, c'est un projet du département qui effectivement, s'appuie également sur les grandes lignes de la méthode Miyawaki, avec cette idée de très forte densité. Donc, on est à 3 plants au mètre carré, hein, avec des espèces endémiques, effectivement. Nous, à la raffinerie, on a sollicité le plan 1 million d'arbres du département, mais plutôt sur notre volet pépinière. Mais ce n'est pas ce projet qui nous accompagne. Pour l'instant, ce projet se crée avec le partenariat énorme et important de tous les bénévoles qui viennent donner un coup de main et avec le partenariat d'une association qui s'appelle Hisse un arbre, qui nous a aidé à monter la pépinière et qui va nous aider pour l'irrigation. Pour l'instant, on a aussi un soutien financier de la mairie de Saint-Paul, financier et matériel de la mairie de Saint-Paul pour ce qui est le matériel... le végétal et puis également le tractopelle. Mais voilà, ça, c'est des aides de l'ordre de quelques milliers d'euros. Mais pas dans le cadre du projet 1 million d'arbres. Mais en fait, encore une fois, il y a ce projet 1 million d'arbres au niveau du département. Il y a un projet 100 000 arbres au niveau de la commune de Saint-Paul. Il n'y a pas trop de projets pour planter des arbres. Vraiment, on est dans une urgence climatique où il faut planter... de plus en plus d'arbres. Alors, on va arguer, une microforêt, c'est pas une forêt. Oui, c'est vrai, on peut faire un débat, une forêt, ça doit être un écosystème qui existe de lui-même. On est d'accord. Mais là, on est dans une telle urgence que, peu importe, on va planter des arbres et, bien entendu, en respectant quand même quelques petites règles pour assurer la biodiversité. Donc ça, c'est un des autres objectifs. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, souvent on nous dit ça, mais pourquoi on plante pas plein de manguiers et plein de litchi? Parce qu'en plus, c'est des arbres et ça donne à manger. Là, on a une autre intention écologique, c'est de maintenir la biodiversité donc d'espèces qui étaient pour certaines en voie de disparition. Et la biodiversité, c'est un peu ce qui va nous sauver la vie, j'ai envie de dire. C'est que s'il y a une plante, par exemple, je prends un exemple très simple, s'il y a une plante qui est ravagée par un insecte, et ben, s'il y a plein d'autres plantes à côté qui sont résistantes à cet insecte, et ben, ça ne va pas... détruire la forêt. Alors que si on a un seul arbre et qu'il est sensible à cet insecte, là, on perd toute la forêt. Donc, c'est important d'avoir des espèces très, très variées qui vont interagir entre elles et de respecter aussi la biodiversité entre les espèces du nord de l'île, les espèces du sud de l'île. On appelle ça des écotypes. Bon, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques et biologiques, mais tous ces aspects, on en prend vraiment compte parce que ça va garantir vraiment une bonne qualité de cette biodiversité qui, à La Réunion, est très, très riche. La Réunion, c'est un hotspot de biodiversité et on entend bien contribuer à ce qu'il le reste.
Oui, c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de recréer un écosystème, quoi.
Avec donc des espèces très variées qui vont garder toutes ces spécificités, qui vont attirer une faune également qui est spécifique de cet écosystème, qui vont capter du carbone, avoir un impact, on est convaincu, sur le climat, et qui vont aussi avoir un impact qui est important et qui nous tient à cœur aussi à La Réunion, c'est le côté patrimonial. C'est-à-dire qu'on est sur des espèces, beaucoup de ces espèces sont au patrimoine en tant qu'espèces tisanières. Donc on les utilise dans la pharmacopée locale. Et c'est important que à La Réunion, on puisse garder cette mémoire de toutes ces plantes qui ont été utilisées par les grands-mères ici pour soigner les familles. Donc il y a aussi ce côté patrimonial qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on veut maintenir.
Et on parle aussi de séquestration de dioxyde de carbone.
Ouh là là, effectivement, c'est un grand mot.
C'est un grand mot.
Ouais,
hein,
mais j'ai écouté encore hier une émission de Francis Allais. Tout le monde connaît Francis Allais. C'est un grand botaniste.
Ah bah, bien sûr.
C'est un grand botaniste qui a plus de 80 ans et qui répondait avec malice à l'appel d'offres de Elon Musk. Tout le monde connaît Elon Musk.
Bien sûr.
Oui, le marin.
Le monsieur qui va envoyer sa voiture dans l'espace.
Ah oui, voilà. Ah.
Voilà, donc le Elon Musk, qui est multimilliardaire, a lancé un appel à projet en disant « Je donne $1 million à celui qui me trouvera une machine, qui va fabriquer la machine qui va séquestrer le carbone pour contrer le changement climatique. » Et Francis Allais, grand botaniste, a levé la main en disant « Mais moi, j'ai la solution. Ça s'appelle un arbre. Et si on plantait des arbres partout, eh ben oui, on pourrait contribuer à cette séquestration de carbone plutôt que en rejeter dans l'atmosphère en fabriquant des machines. » Donc, il disait ça avec malice. En attendant, ce grand monsieur, il a quand même le projet de reconstituer une forêt de primaire de 70 000 hectares en Europe qui sera prête dans 300 ans. Donc, quand je vous dis que lui, il n'agit pas pour lui ni pour ses enfants.
Ça va, ouais. Il y a du joli délai.
Ouais. Donc, entre planter une forêt pour dans 3 siècles et puis planter une forêt pour dans 20 ans, je vous dis, il n'y a pas de moment. Il faut plantons des arbres, allons-y. Il y a plein de mouvements en plus à La Réunion qui soutiennent cette dynamique et je trouve ça super d'en faire partie et en plus de servir d'outil pédagogique pour que tout le monde se sente concerné.
Bah, c'est beau d'avoir ça ici, à la raffinerie.
Ouais, ouais.
Et quand on va sur la documentation de la raffinerie, sur la fiche microforêt, ça parle de co-rémunération pour effectuer des missions attenantes au projet. Mm-hmm. Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde peut venir participer? C'est quoi l'idée de la microforêt?
Alors, tout le monde peut venir participer déjà à la préparation de sa plantation. Donc, effectivement, ça peut être sur les chantiers du mercredi pour venir ajouter du broyat sur le sol préparé pour entretenir la pépinière, soigner les plants, leur parler, les rempoter. On va avoir la plantation qui va commencer le mois prochain ou dans 2 mois. Et puis, effectivement, comme on a une intention pédagogique pour cette forêt, on a prévu des ateliers, des visites. Donc, il y a plein d'actions autour de ça. On a également prévu un truc super qui va être un suivi. Et là, c'est pareil, à long terme de cette forêt. Donc, on va suivre son impact sur l'environnement et puis voir aussi comment ça marche, comment avoir une capitalisation et retour d'expérience. Est-ce qu'elle pousse la mortalité? Et donc, tout le monde peut venir contribuer à la plantation, l'entretien et le suivi. On est en train de solliciter de nouveaux partenaires pour avoir des financements pour pouvoir nous accompagner à faire ces actions de manière sérieuse. Et il pourrait y avoir effectivement, si on obtient ces financements, pour l'instant, on ne les a pas encore, mais si on obtient ces financements, des missions pour faire des animations pédagogiques, pour faire des animations de suivi, des découvertes, et puis également aller accompagner d'autres associations sur le territoire qui auront envie de planter des micro-forêts. Donc, on est actuellement en demande de soutien financier pour pouvoir démultiplier et essaimer ce principe et en même temps de capitaliser.
Bon, en tout cas, pour ceux qui ont envie de venir mettre la main dans la terre, ça se passe le mercredi matin.
Oui, ça se passe le mercredi matin pour commencer à mettre les mains dans la terre. On raconte qu'avoir de la terre sous les ongles, ça envoie des hormones de bien-être. Donc, venez tous mettre vos ongles dans la terre, c'est super. Surtout à cette saison pluvieuse, c'est un vrai bonheur. Et puis, quand vous aurez mis un peu les mains dans la terre, on vous invite également à rejoindre les réunions micro-forêts. où on parle un petit peu du projet dans sa globalité, où on en est, où on va, quand est-ce qu'on plante, et ça vous permet de, d'être un petit peu derrière, dans les coulisses de ce projet Microforêt. Donc vous êtes vraiment tous bienvenus, on a besoin de monde pour les 20 prochaines années, donc faites-vous plaisir.
Rendez-vous le mercredi matin et vous demandez 4.
Ouais.
Et alors, est-ce qu'on peut toucher un tout petit mot? Ça n'aura pas lieu tout de suite, mais tu voulais faire des cafés Microforêt. En fait, c'était ça la base,
oui,
la base de l'interview.
Ouais.
Finalement, c'est pas tout de suite avec tout ce qui se passe en ce moment. Et on est tous, on est tous peinés de tout ça. Mais tu voulais organiser ça, quoi, ici, avec la projection de films, des narrateurs qui viennent lire des contes.
Oui, effectivement, on avait envie parce que ça peut aussi être, enfin, tout peut être festif. Et puis à la raffinerie, on aime bien avoir plein de médias, de partage. Donc on a prévu quand ça sera possible de faire une soirée Microforêt. Donc effectivement, projeter un film pour montrer. Donc il y a des films super qui sortent en ce moment qui montrent la richesse et les incroyables ressources des milieux forestiers. Et puis, on a des partenariats avec des personnes qui peuvent nous raconter les histoires de la forêt, de la faune, de la flore, pour mettre un petit peu de rêve et puis d'histoire et de patrimoine sur cet écosystème. Donc, vous serez informés quand il y aura cette soirée, avec des échanges pour qu'on y connaisse, on en connaisse un peu plus, qu'on rencontre les acteurs du territoire. Et puis, voilà.
OK. Est-ce qu'on a fait le tour, Kat?
Moi, j'ai vraiment encore envie d'insister. Ah, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, que je trouvais vraiment super. Et tu m'as dit tout à l'heure que j'étais poète. Ce qui est génial dans une microforêt, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est que tu prends une famille, tu reconstitues une famille. Un écosystème, c'est une famille. C'est un oncle, une tante, un frère, une sœur. Et chacun a sa place dans cette famille. Il y a les espèces pionnières, les espèces arbustives. Et tu les mets toutes ensemble très, très, très serrées. Alors, tu te dis, au début, il va y avoir de la compétition. Effectivement, les arbres partent en compétition pour la recherche de la lumière et partent vers le haut. Et très rapidement, parce que c'est une famille et que pendant des centaines d'années, ils ont appris à vivre ensemble, au niveau du sous-sol, ils vont se connecter au niveau des racines. Ils vont créer des connexions, ils vont être aidés des champignons. Et en fait, dans un sol forestier, c'est un énorme réseau Internet qui a été inventé, mais bien, bien avant le nôtre. Sauf que celui-là, il pollue pas. Et c'est juste incroyable de s'imaginer que quand vous marchez dans une forêt, il y a des milliers de connexions qui se font et les arbres, ils parlent entre eux et ils s'aident, et les plus grands, ils aident les plus petits, ils captent la pluie, le soleil, ils font ruisseler les nutriments sur tout. Et en fait, c'est quand tu rentres dans une forêt et que tu as conscience de ça, mais tu te sens tellement petit et tu dis mais c'est une richesse incroyable dont je veux m'inspirer, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus que d'un point de vue technique et scientifique, d'un point de vue humain, comment on peut s'entraider les uns les autres en chacun ayant notre place, respectant notre diversité, nos différences. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça marche, les microforêts, c'est que c'est qu'il y a cette entraide. On dit que la loi de la jungle, c'est la compétition. En fait, on sait bien maintenant que c'est plus vrai. C'est la collaboration. Et je trouve que avoir une microforêt à la raffinerie, c'est un petit clin d'œil. T'as vu comme je fais une super transition pour le projet, l'intervention de Guillaume. Comment est-ce qu'on peut être ensemble, dans nos différences, collaborer, chacun trouver notre place? Et bien, la forêt, elle nous donne cet exemple. Et c'est pas beau?
Ah si.
Moi, je suis émue là, je suis hyper émue.
C'est ça qu'on appelle le mycélium.
Mais oui.
Oh. Ouh là 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 là, on est bientôt raccord sur le nom de la radio, j'ai l'impression. Bientôt, vous saurez. Cet après-midi, on va trancher. Mais merci, en tout cas, c'est hyper agréable de parler à quelqu'un qui est passionné. Du coup, là, tu nous as vendu du rêve, quoi.
Ouais,
franchement, ça donne envie de venir mettre les ongles dans la terre demain. Voilà, sauf que du coup, quand le podcast sera diffusé, ce sera peut-être pas demain, mais ce sera un mercredi dans tous les cas.
Ouais, regardez les programmes.
Pour venir voilà, t'accompagner et voir ce qu'il en est.
Ouais, super. Merci, France.
Merci beaucoup, Kat. Merci pour cette intervention. On va enchaîner avec Régis. Régis, tu nous as préparé donc une chronique toujours sur ce même thème, la microforêt. Et tu as été inspiré ce matin à l'aube. Yeah, on t'écoute.
Merci pour le son d'accompagnement qui illustre un sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, puisque je suis allé dans la forêt pour aller parler de la microforêt. Alors bonjour les auditeurs, bonjour Savannah, et bonjour la Réunion, l'océan Indien. Salut à Saint-Malo, petit coucou comme ça au passage. Alors je me présente, Roger, grand reporter à petit prix, en mission sur les sujets à risque, les investigations périlleuses, les touristas qui font des traces. Et à ce propos, je conseille la laverie du centre-ville du Tampon qui ouvre très tôt, c'est plus discret. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la microforêt, celle en devenir de la raffinerie à Saint-Paul. C'est là où on est aujourd'hui. Comment mieux... Ah, c'est une faute d'orthographe, excusez-moi.
Corrige.
Voilà. Comment mieux parler de la microforêt, c'est encore de monter une expédition hors forêt, dans la plus grande forêt du monde, bien sûr, l'Amazonie. La grande forêt primaire avec ses grands arbres qui font du bois de terrasse, ces rivières pleines d'or qui font des bacs pour madame et ces jaguars qui font de superbes décos dans les entrées quand on met de la paille dedans. L'Amazonie, c'est aussi les sons de la jungle, les singes hurleurs. Alors, attendez, je vous ai ramené ça en direct de YouTube.
Ah oui. C'est artisanal un petit peu.
Voilà, c'est impressionnant. Hein. C'est donc les singes...
Ça valait le coup.
Ah bah là, on y était, là.
On était à la laverie du Tampon à 6h du mat, là.
C'était le bruit de la tourista ou de...
Oui, c'est du vécu. Attendez, parce que là, ça continue. On arrête le son. Les cacatoès ou les chauves-souris qui font des sons, mais là, c'est plus discret, faut bien tendre l'oreille. Bon, donc rien que d'y penser, j'en avais des frissons et je suis allé sur le site de French Bee pour prendre mes billets. Mais bon, bah, restriction oblige, j'ai pas pu prendre l'avion. Voilà. Donc du coup, j'ai été bien inspiré parce que j'ai réfléchi un petit peu en me disant que j'étais quand même à La Réunion et qu'il y a quand même quelques forêts à La Réunion. Donc je me suis dit, je vais prendre mon sac à dos, ma boussole et ma gourde et je trace ma fat. Hein. C'est là où il y a des forêts. Et paf, col des bœufs, pif, paf. Voilà. Col des bœufs, forêt des tamarins, bar des songes, de la nouvelle, il y a tout. Au bar, il y a les singes hurleurs. Dans la forêt, il y a les cacatoès, mais c'est plutôt les vaches qui les déposent au sol. Et voilà. Et sinon, les chauves-souris, bah, suffit de voir tous les vieux qui sont contents de descendre à la nouvelle et qui sourient comme des bonnets. Voilà. Je pourrais pas trop rester avec les. Je pouvais pas trop rester avec les singes hurleurs. Alors après 3 jours et 3 nuits, on s'est quitté, un peu fatigué, mais j'étais encore sur pied. Eux, je sais pas, je les ai pas revus. Et c'est là que j'ai fait une grosse erreur. J'ai confondu l'eau potable du robinet et l'eau potable. Alors, les mafatais ont des intestins galvanisés par le rougail piment depuis qu'ils ont vu le jour. Et moi, depuis seulement le 31 décembre, où il y avait un rougail mangue qui te localise précisément tout l'appareil digestif du corps humain en 10 minutes chrono. Donc, pas assez pour le robinet de mafat. Du coup, moi qui étais parti chercher des sons de la nature, je suis plutôt revenu avec des sons de tuyauterie qu'on déboucherait au desktop. Donc forcément, j'ai dû rentrer et poursuivre mes investigations, mais en passant par SOS Médecin. Mais j'avais une mission, parler de la forêt en plus petit, de la microforêt. Alors depuis les cabinets où j'ai passé quand même une semaine, j'avais du temps, donc j'ai pu vous faire un travail de description façon Wikipédia. On dira plutôt ici Raffinédia. Alors, définition d'une microforêt. Alors, moi, j'ai, par contre, c'est étayé. Hein. Kat, tout à l'heure, on en a parlé, mais. Donc, microforêt ou micro-massif forestier est une étendue boisée relativement petite, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres, arbustes ou arbrisseaux, et aussi d'autres plantes indigènes associées. Bon, je vous passe les définitions latines des arbres. La notion de microforêt est plutôt urbaine, c'est un concept du XXe siècle. Alors, histoire, comment on en arrive à faire des microforêts. Donc, voici les étapes de l'apparition d'une microforêt. Il y a plusieurs siècles, l'homme dans les forêts y trouvait tout ce dont il avait besoin, habitat, vêtements, allumettes, etc. Tout s'est bien passé jusqu'à globalement l'apparition de la notion de propriété, elle-même apparue par la notion d'argent, elle-même apparue par la notion de servage à l'égard du chef du village qui ne voulait pas travailler, mais quand même bien manger et être bien accompagné. Donc on pourrait remonter loin comme ça, mais bon, on s'écarte un peu du sujet de base. Donc, les forêts sont la propriété d'une minorité qui exploite avec les arbres, qui abat les arbres, revend la terre autour des villes pour en faire des zones industrielles ou des parkings. Une fois que plus personne n'en veut, on redonne la terre à une association qui l'embellit, met des désodorisants avec des plantes qui sentent bon et fait de la bière. Voilà, moi, c'est à ma connaissance le seul modèle de microforêt que je connaisse. Et puis donc les avantages, parce que j'ai fait ça par rubrique, hein, donc, les avantages et inconvénients de la microforêt. Donc d'abord les avantages. Donc pour faire une course d'orientation, c'est pratique. Voilà. Pour retrouver sa voiture, il suffit de monter à un arbre. C'est un refuge pour deux, trois oiseaux, un fossé, quelques champignons, une dizaine de lombriques. Et c'est pratique pour ramasser les feuilles. Donc les inconvénients de la microforêt, on peut pas être tranquille s'il y a plus d'une voiture sur le parking. On peut pas y abandonner les enfants ou les chiens sans se faire rattraper par un bienveillant. L'exploitation forestière ne permet pas une destruction lente et profitable. Il y a un son bizarre, je vous dis.
C'est un oiseau, je crois.
C'est un oiseau à moteur. À quoi sert une microforêt ? Bah, on peut se le demander. Enfin, l'intérêt scientifique de la microforêt est limité. On ne peut pas y faire de micro-études qui donnent forcément des micro-preuves, ce qui n'est pas suffisant pour prendre des décisions.
Voilà. Des micro-décisions.
Des micro-décisions, voilà, c'est jamais la bonne technique. En conclusion de ma chronique, la microforêt est un signe d'espoir, super, et c'est bien. On a hâte de mettre la nappe à carreaux et pique-niquer à moins de 6. Voilà. Donc je vais passer le micro à Antoine, qui nous a préparé des super sons. Antoine qui est donc le père du fond sonore qui tourne depuis le début de l'émission. Salut Antoine.
Salut. Enchanté et bonjour à tous. Je suis très content de participer à ce premier podcast La Raffinerie. Donc voilà, j'ai conçu un petit habillage sonore pour le coup. Et je vous propose d'écouter un autre morceau que j'ai composé non pas dans la forêt, mais dans mon studio avec mes machines et mon synthétiseur analogique. Donc voilà.
Morceau il a un petit nom ?
Il n'a pas de nom pour l'instant, un nom qui s'appelle Modula 9, mais qui n'a pas vraiment de sens ni de signification. Donc voilà.
Rappelle-nous ton nom d'artiste.
Alors, mon nom d'artiste, c'est Cobald.
Tu es venu mixer à la raffinerie.
Je suis venu plusieurs fois, oui, jouer à la raffinerie pour les apéros du mercredi. Et donc voilà, c'est parti.
Ça part sur la radio de la raffinerie. Ben écoute, on se retrouve juste après du coup pour Guillaume qui va nous parler de la skik. À tout de suite.
Thank you. forward. Hudson forward, coming down nicely, 200 feet, 4.5 down, 5.5 down.